Bonjour.
Bonjour Tofik, bonjour à tous. Caracas dit avoir déjoué une tentative de coup d'État militaire. Le ministre de la Communication accuse même des pays voisins et les États-Unis. Nous irons au Venezuela dans un instant. Nous expliquerons ensuite la situation dans les centres de rétention pour migrants. 21 associations ont écrit une lettre ouverte hier au ministre de l'Intérieur. Elles dénoncent une politique punitive. Et puis Nicolas Sarkozy publie un livre aujourd'hui, dressant son portrait. Nous l'avons lu, verbatim à suivre. Il affirme que le gouvernement vénézuélien a déjoué un coup d'État. Le ministre de la Communication dans le pays accuse des militaires, majoritairement retraités et en exil, d'avoir projeté de tuer le président vénézuélien, Nicolas Maduro. Ils auraient été soutenus, toujours selon Caracas, par les États-Unis, la Colombie et le Chili. Et le ministre est sûr de lui, Benjamin Delisle.
À en croire Jorge Rodriguez, si le coup d'État a pu être déjoué, c'est grâce à l'infiltration d'agents du renseignement au sein du groupe militaire mis en cause. Selon lui, ces militaires voulaient agir le week-end dernier en prenant une grande base militaire de Caracas, la banque centrale et le palais présidentiel afin d'imposer Raúl Baduel, un ancien ministre de la Défense emprisonné, comme président de la République. Au passage, le ministre de la Communication assure qu'il voulait éliminer tous ceux qui feraient obstacle.
Il voulait assassiner 95% des généraux des forces armées nationales bolivariennes. Ce qui veut dire qu'ils n'avaient le soutien que de 5% d'entre eux.
Une manière de dire que le gouvernement est plus fort que jamais car ces militaires ne seraient qu'une minorité et qu'ils ne soutiennent même pas l'opposition dirigée par Juan Guaido. Jorge Rodriguez a aussi accusé Iván Duque et Sebastián Piñera, président de la Colombie et du Chili, d'avoir fomenté ce coup d'État avec Washington.
Ce sont des promoteurs de coups d'État contre le Venezuela. Ce sont des investisseurs dans des actions agressives contre la démocratie et la constitution du Venezuela.
Ce n'est pas la première fois que Jorge Rodriguez se présente en direct à la télévision pour annoncer qu'un coup d'État de ce genre a été déjoué. C'est un nouveau roman, accuse d'ailleurs Juan Guaido. Pour le leader de l'opposition, en présentant des preuves invérifiables, le gouvernement joue une fois de plus la victime face au monde entier.
Benjamin Delisle, correspondant de RFI à Caracas pour France Culture. La ligne rouge est franchie dans les centres de rétention pour migrants en France. Voici ce que disent 21 associations dans une lettre ouverte adressée au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. 24 900 migrants ont été placés en rétention l'année dernière en métropole. Et depuis janvier et la loi sur l'immigration, ces sans-papiers peuvent rester enfermés jusqu'à 90 jours. La durée de rétention a doublé et cela génère de la violence inédite, Tara Schlegel.
Grève de la faim, émeute, automutilation, jamais, disent les associations qui travaillent aux côtés des étrangers, jamais le climat n'a été aussi tendu. David Rohi, de la CIMAD, raconte ce père de famille, arrêté en mai dernier avec sa fille de 16 ans.
Le père nous a tout de suite dit qu'elle était très fragile psychologiquement, et très vite elle a tenté de mettre fin à ses jours en avalant un grand nombre de pièces de monnaie. Elle a été hospitalisée, et puis finalement elle a été libérée après 10 jours de rétention. Et des cas comme cela, je pourrais vous en citer de très très nombreuses, ou comme un collègue qui travaille au centre de rétention de Rennes et qui un jour reçoit dans son bureau un monsieur qui s'est cousu la bouche. On est sur ce niveau-là de violence générée par cette politique.
Ces actes de désespoir sont nourris par une politique d'enfermement sans discernement, écrivent les ONG. De plus en plus de familles sont arrêtées. 208 enfants de moins de 12 ans enfermés l'an dernier en métropole, mais aussi des malades psychiatriques qui se retrouvent à l'isolement, des handicapés, des malades graves qu'on ne pourra jamais renvoyés chez eux. Les associations parlent d'une violence institutionnelle démesurée et injustifiée. 6 étrangers sur 10 sont finalement libérés. 40% sur décision d'un juge, ce qui prouve que l'enfermement était illégal, écrivent les associations. Depuis que la durée de rétention est passée à 3 mois, la violence explose, mais le taux d'expulsion vers les pays d'origine est stable. Ces enfermements conçus pour faciliter les retours sont donc injustifiables. Les ONG en appellent à Christophe Castaner.
La crise migratoire encore en Italie cette fois. L'ONG allemande Sea-Watch a décidé de briser le blocus imposé par le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini après 2 semaines passées en mer Méditerranée. Le navire humanitaire a pris la direction du port de Lampedusa pour accoster, et ce malgré la colère et les mises en garde des autorités italiennes. Que va devenir la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali? Elle avait été créée en 2013 sous l'impulsion de François Hollande après l'offensive de la France pour chasser les groupes djihadistes au nord du Mali. Et ce jeudi, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer sur le prolongement de son mandat ou non, alors que des massacres interethniques se multiplient depuis quelques mois dans le pays. Nous faisons donc le point ce matin sur les forces de la MINUSMA au Mali avec Omar Waman.
Avec ses 13 000 soldats, la mission de l'ONU au Mali est l'une des plus importantes. Chargée du maintien de la paix, elle est également la plus coûteuse en vie humaine. Depuis 6 ans, on compte 195 morts, dont 153 casques bleus tués dans des actes hostiles. Antoine Glaser, spécialiste de l'Afrique.
La mission des Nations Unies au Mali, ça a été vraiment le plus meurtrier. C'est une sorte de traumatisme au niveau des Nations Unies. Ils n'étaient pas habitués à perdre autant d'hommes. C'est extrêmement compliqué.
Une force qui repose essentiellement sur des soldats originaires de pays de la région, comme le Tchad ou le Togo. Des contingents souvent mal équipés et peu formés.
Très souvent, ce sont les pays les plus pauvres du monde qui mettent à disposition un certain nombre de contingents qui n'ont pas du tout les moyens parce que leurs pays sont beaucoup moins en capacité.
Et pour éviter d'être pris pour cible, ces casques bleus sont souvent réduits à rester dans leur base.
La stratégie de la MINUSMA, ça a surtout permis d'éviter d'avoir autant de pertes. Ça veut dire qu'elle s'est de plus en plus bunkérisée dans ses campements. La critique des Maliens, c'est de dire ils font pas vraiment de boulot.
Et pour faire taire ces critiques, la mission de l'ONU au Mali a renforcé sa présence dans le centre du pays, dans la région de Mopti, théâtre d'attaques djihadistes et de violences intercommunautaires.
De nouvelles frictions sont à prévoir aujourd'hui entre l'Iran et les États-Unis et peut-être même avec les pays signataires de l'accord sur le nucléaire iranien en 2015. Les réserves d'uranium enrichi de Téhéran vont dépasser à partir d'aujourd'hui la limite prévue par cet accord. C'est une première victoire pour les associations de consommateurs qui aimeraient rendre obligatoire dans l'Union européenne ce système. Le géant de l'agroalimentaire Nestlé va adopter le Nutri-Score, un étiquetage nutritionnel avec des couleurs allant du rouge au vert, Audrey Tison.
Ce produit est-il plutôt bon ou plutôt mauvais pour la santé? À consommer en petite ou en grande quantité? Le Nutri-Score répond à ces questions en un coup d'œil. Le produit est classé du vert au rouge, de la lettre A à la lettre E. Un visuel simple, déjà testé en France, en Espagne et en Belgique, mais seulement avec les producteurs qui se portent volontaires. Pour l'imposer, 7 associations de consommateurs de différents pays ont lancé récemment une initiative citoyenne européenne, sorte de pétition qui doit réunir 1 million de signatures pour obliger la Commission européenne à lancer une réglementation. L'initiative de Nestlé vient donc à point pour mettre la lumière sur ce projet. Les boîtes de Nesquik, Buitoni et autres Nesty vont progressivement afficher le Nutri-Score d'ici 2 ans. Changement de stratégie pour ce groupe qui faisait jusqu'ici partie des multinationales refusant cet étiquetage jugé trop stigmatisant.
En France maintenant, la Haute Autorité de la Santé prône le déremboursement de l'homéopathie. Voilà ce que dit ce matin le quotidien Libération. Cet avis définitif doit être officiellement rendu public demain. Une conclusion très attendue. Ce sera ensuite au gouvernement de trancher sur le remboursement ou non de l'homéopathie en France. Nicolas Sarkozy l'assure, ce ne sont pas ses mémoires. Il sort ce jeudi un livre en librairie intitulé « Passion ». C'est pourtant un récit personnel, Rosalie Lafarge.
Oui, très personnel, tellement qu'on en oublierait presque parfois que l'homme qui écrit a été président de la République. Loin de n'être qu'une succession d'histoires politiques, d'amis et d'ennemis dans le parti, Passion dresse avant tout le portrait d'un homme. Un homme dont la vie est faite de hauts et de bas, professionnellement comme personnellement. Un homme sensible, touché par l'éloignement progressif de celle qui est désormais son ex-femme. Un homme moins bling-bling que ce qu'on a pu vouloir faire de lui. C'est le sentiment qu'il donne quand il se sent obligé de préciser qu'il a toujours aimé les usines. Un homme qui a gravi les échelons du pouvoir un par un et qui, à le lire, le doit avant tout à lui-même, pour ne pas dire seulement à lui-même, à sa volonté, son acharnement, sa capacité à tenir, parfois envers et contre tous, mais un homme capable aussi de reconnaître des erreurs. Le Fouquet's, par exemple, détestable, l'utilisation d'images de son fils pour sa carrière politique, sans doute ne le referais-je pas, et un homme de valeur surtout, de valeur gaulliste, de droite, toujours assumée, jamais reniée, et porteuse du rassemblement. Nicolas Sarkozy critique la division chez les LR en ce moment, quand lui a aspirait à rassembler le plus grand nombre, pas à dominer la secte de ses plus proches partisans. Et d'en vouloir à Valérie Pécresse et son mouvement libre, à Xavier Bertrand et sa manufacture, à Bruno Retailleau et Force Républicaine. À l'arrivée, je crains fort que chacun sera déçu, écrit Nicolas Sarkozy, avant d'expliquer en quelques lignes comment rassembler plutôt que diviser.
Merci Rosalie Lafarge du service politique de France Culture. La canicule se renforce ce jeudi. Météo France porte à 78 le nombre de départements placés en vigilance orange. n'épargnant finalement que les côtes de la Manche, de la mer du Nord et quelques zones sur le sud-ouest. Le soleil s'impose sur tout le pays et comptait déjà ce matin 28 degrés à Paris, 29 à Besançon et Bordeaux, 31 degrés à Lyon, 34 ce matin à Marseille. Cet après-midi, les températures vont dépasser largement les 35 degrés avec par exemple 41 degrés à Montluçon.